On est parti, 10e épisode d'Endorphine. Et oui, ça y est, j'en ai enregistré 10. Mon objectif, c'était au moins de tenir jusqu'à 20, parce que je crois que j'avais entendu que si on tenait 20 podcasts, on avait déjà au final doublé la majeure partie qui avait arrêté largement avant ça. Je vous cache pas que c'est pas aussi simple que ça hein, d'être là toutes les semaines, d'avoir des trucs à dire, de structurer sa pensée, mais c'est aussi pour ça que je le fais. Je trouve le challenge intéressant de réussir à vous amener des choses toutes les semaines, à vous parler de mon expérience, de mes réflexions que je peux avoir pendant mon entraînement. Et j'espère que ça vous intéresse toujours. Dans tous les cas, eh bien, j'aime vos retours. Encore une fois, continuez de m'en faire. Et cette semaine, j'espère encore une fois vous accompagner pendant vos runs. Je ne sais pas où vous en êtes, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, il y a une course de printemps qui se profile. Pour certains, elle a déjà eu lieu. Il y a eu le semi de Paris il y a 10 jours. Il y a eu le marathon de Barcelone ce week-end. Il y a le marathon de Paris qui est dans 4 semaines. Il y en a plein d'autres au printemps. Donc, si vous êtes dans une course et que vous m'écoutez en courant, eh bien, bon entraînement. Ne lâchez rien. C'est la phase finale. C'est là où tout se joue. Donc, soyez bons. Suivez votre plan. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ces courses de printemps. De mon côté, eh bien, j'en suis à 3 semaines de suite autour des 100 km. J'ai une moyenne de 100 km sur ces 3 semaines. On est revenu un petit peu sur ce que je visais sur cette année, ce que j'ai pas pu faire pendant les 2 premiers mois, mais c'est pas très grave. Au final, ça a été un début d'année un peu poussif, un peu progressif. Mais là, sur les dernières semaines, je trouve que la forme commence à me plaire. Et je commence à me faire un peu plus plaisir sur mes séances d'entraînement. Pas toutes, vous allez voir. Il y en a une que je vais vous raconter un peu plus tard dans ce podcast qui s'est mal, voire très très mal passé. Mais dans tous les cas, au global, ma forme est bonne. Elle me permet de m'amuser en courant. Et j'ai un 10 km dans une semaine maintenant. Je ne suis pas prêt pour ce 10 km, clairement. On va voir ce que ça donne. J'y vais sans trop de pression. Si ça marche pas, eh bien, de toute manière, je me disais que j'avais pas la forme pour avoir une super perf, donc c'est comme ça, c'est pas très grave. C'est pas un objectif A, c'est même pas un objectif B, j'ai envie de dire. C'est un objectif C, j'y vais en mode advienne que pourra. Et parfois, on est surpris dans le bon sens dans ce genre de course, donc vous inquiétez pas, je ne suis pas défaitiste, je ne dépose pas les armes. Si j'ai la moindre opportunité de faire un gros chrono sur ce 10K, je le ferai. Dans tous les cas, j'aimerais bien au moins battre mon record, hein, parce que on va pas se cacher que mon record au 10 km, il est pas foufou par rapport aux autres distances, donc j'aimerais quand même passer sous les 34 minutes, et après, le reste, ça serait du bonus, et on verra. Je vous en parle évidemment la semaine prochaine, prochain podcast, vous aurez le résumé de ce 10 km directement après la course. En attendant, le sommaire du jour. J'ai pas mal de petits sujets, rien de très gros, mais on va parler de mon entraînement, de mes 10 entraînements par semaine et comment j'arrive à gérer en final l'entraînement, l'entreprise, Running Addict. Bref, beaucoup de choses, beaucoup un planning très chargé et je vais vous parler de mon rythme d'entraînement du moment. En réalité, on vient déjà un peu de le faire en termes de kilomètres, mais je vais vous parler en nombre d'entraînements et de quoi il est composé. On va parler de mon planning pour tenir ce rythme. Donc les deux sont très liés. Je vais poser d'abord quel est mon rythme d'entraînement pour vous expliquer le planning qui va avec et comment je fais pour le gérer et le tenir chaque semaine parce que c'est pas simple. Et on va faire une petite incursion sur l'entraînement le soir qui est mon némésis. Je ne suis absolument plus capable de m'entraîner le soir et je vais vous expliquer pourquoi. Et on va parler de quelques petites astuces que j'utilise dans mon planning pour faire rentrer les choses. Attention, rien de foufou, hein, vous attendez pas à des remèdes miracles, mais je vais vous donner quelques petits trucs qui pour moi sont importants dans ma gestion de planning. Je vais vous parler du fait que je travaille en courant aussi, d'une certaine manière, vous allez comprendre. Et on va passer sur un sujet un petit peu philosophique, au milieu de ce podcast sur suis-je heureux Je vais essayer de répondre à cette question sous le prisme d'une phrase que j'ai entendue dans un podcast récemment. J'arrive plus à me rappeler dans lequel, mais ça va vous permettre de valider vous aussi si vous l'êtes ou pas au final. Et je trouve ça intéressant parce que ça remet... C'est une phrase qui m'a bien remis les choses dans le bon contexte et je l'ai trouvé intéressant à vous la partager. On va parler muscu aussi. Je vous avais dit en début d'année que j'avais un objectif côté musculation et je me rends compte que d'avoir un objectif muscu et course à pied en même temps, c'est compliqué. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais avec ça et où j'en suis. On va parler un petit peu de l'entraînement de groupe aussi parce que j'ai fait une séance avec Dorian cette semaine et deux de ses compères. Et j'ai trouvé ça intéressant de se recentrer sur qu'est-ce que ça apporte, l'entraînement de groupe, qu'est-ce que ça et quelles limites ça amène. Il y a du positif et du négatif, comme souvent dans tout. Et dans le positif en ce moment, eh bien, il y a ma prépa trail qui recommence doucement, même si au final j'ai des objectifs route. Eh bien, je fais un mix avec un petit peu de retour de dénivelé. J'ai envie de dire doucement mais sûrement, je remets du dénivelé. Hier, dimanche, j'ai fait, je crois, 750 mètres de dénivelé positif et donc négatif au Havre. Donc, il y a plus de dénivelé que ce que je pouvais imaginer. Et il y a de quoi faire une petite prépa trail qui ne sera pas optimale, évidemment, pour un trail de montagne. Hein. On va pas se cacher, j'habite au Havre, j'habite pas à la montagne. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas quand même. En attendant qu'on démarre, ce podcast est toujours sponsorisé par Campus Coach, ma petite plateforme qui vous fait vivre une expérience personnalisée, qui fait vivre une expérience personnalisée à chaque coureur. Ça, c'est important parce que chaque coureur est différent et vous avez donc besoin d'un entraînement qui s'adapte à votre profil. Mais Campus, c'est pas que ça, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille et qui vous rassure tout au long de l'entraînement parce que ça aussi, c'est très important d'avoir les bons conseils au bon moment. Campus, c'est pour tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé. Et si vous voulez l'essayer, eh bien, les plans 12 semaines sont gratuits. Et pour ceux qui veulent tester l'entraînement individualisé aux petits oignons, eh bien, je vous offre un mois avec le code RUNNINGADDICT. Allez, on passe à mon entraînement. Et avant ça, petit café du jour. On part en Éthiopie sur ce café, sur les terres des coureurs qui vont très très vite. Mais je ne suis pas sûr que le café m'aide à courir plus vite. Malheureusement, ça ne fait pas partie de la recette. La potion magique du café n'existe pas. Allez, mon entraînement du moment, eh bien, je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis passé de 8 à 6 entraînements de course à pied seulement, alors que le volume est toujours autour de 100 km. Donc ça, c'est typiquement une question d'organisation. C'est pour ça que j'en reparle ici, parce que 8 entraînements, j'avais du mal à le faire passer dans mon planning du moment où Campus... Pardon. J'avais du mal à faire passer ces 8 entraînements de course dans le planning du moment où Campus est ma priorité. Et du coup, j'ai réduit à 6 tout en gardant le volume, c'est-à-dire que les footings sont plus longs, ils sont passés de 50 minutes à 1h20. Au lieu d'en faire plusieurs, eh bien, je regroupe et ça correspond plutôt bien à ce que je peux faire en ce moment, donc 6 entraînements par semaine. Au final, je rentre dans la fenêtre de ce qu'on fait sur Campus entre 3 et 6 entraînements de course par semaine. Donc je me rapproche un peu de ce que vous pouvez retrouver au quotidien. Et par contre, j'ai 2 à 3 entraînements de muscu en plus chaque semaine. Donc ça fait entre 8 et 9 entraînements par semaine au global. Donc je ne suis pas à 10, 11, 12 comme je pouvais être pendant la prépa marathon de Valence. Là, 8 à 9, j'arrive à bien le gérer. Et c'est un petit peu ça que je voudrais vous expliquer. Je voudrais vous parler de mon planning et de vous dire comment j'arrive à faire rentrer tout ça dans une semaine au final. Parce que on a tous les mêmes contraintes. Les journées, elles font 24 heures. Il y a du boulot, ça passe vite et il faut réussir à tout faire et c'est pas simple. Donc déjà pour moi, la règle numéro 1 dans mon planning, c'est de réussir à me lever le matin sans réveil et autour de 6h45 en moyenne. Ça, c'est un objectif que j'arrive à atteindre la majeure partie du temps. Et j'y reviendrai dans une vidéo sur ma routine pour que ça puisse arriver. Parce que se réveiller sans réveil, c'est pas forcément... j'ai pas fait ça toute ma vie, hein, ça fait pas si longtemps que je le fais. Mais j'ai une routine, notamment le soir, qui me permet de me réveiller au moment où mon corps a eu ce qu'il avait besoin comme sommeil, ce qui est la base pour une bonne journée. Donc déjà, si on arrive à faire ça, à avoir sa quantité de sommeil, eh bien je peux vous garantir que ça a une influence sur le planning, sur la manière dont on va être capable de le gérer, d'être efficace et d'avoir une belle journée au global. Donc ensuite, lever 6h45, si j'ai un entraînement de muscu, eh bien je vais à la salle entre 7h et 8h. Ensuite, le petit déj et en général, j'attaque mes journées vers 8h30 quand j'ai eu l'entraînement à la salle. Et si j'en ai pas, eh bien, je prends de l'avance, c'est-à-dire un jour sur deux à peu près, j'en ai pas. Je prends de l'avance et j'attaque ma journée entre 7h30 et 8h. Comme ça, eh bien, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et si la journée est terminée plus tôt, ce qui est rarement le cas, mais c'est toujours une petite heure où on peut relaxer un peu, qui fait pas de mal. Donc, je préfère en faire beaucoup le matin et relaxer le soir si j'ai le temps, mais essayer d'en caser un maximum dès le début de la journée. Bah, ça permet de se dire des fois, déjà à mi-journée, qu'on a atteint la majeure partie de ses objectifs, on a fait les tâches qui nous semblaient les plus importantes, que ce soit travail, perso, on essaye de les faire le matin. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que l'après-midi, on est beaucoup plus relax dans ce cas. Et moi, ça me permet surtout d'aller courir entre 11h15 et 11h30 en moyenne. J'ai eu du coup entre 3 et 4 heures de concentration intense à bosser. Et 11h15, 11h30, je vais courir. J'ai mon petit run entre 1h et 1h20 que je fais quasiment tous les jours à cette heure-là. Ça me permet aussi en hiver de passer du temps à la lumière du jour. Donc j'aime bien aller courir le midi. C'est très efficace de ce côté-là. Peut-être que l'été, je vais inverser tout ça, sûrement d'ailleurs. Je n'ai pas encore testé l'été normand et je ne sais pas à quel point il fait chaud le midi. Sûrement moins qu'au Québec, ça c'est certain. Mais du coup, je testerai aussi sûrement d'aller courir à l'inverse le matin à 6h45, 7h et d'aller faire ma muscu peut-être le midi au frais, les journées chaudes. Bref, tout ça c'est adaptable évidemment, mais dans la logique, vous l'avez. Moi, pourquoi je pars à 11h30 ? Parce que je veux être rentré et avoir mangé à 13h30. J'ai besoin d'être opérationnel à cette heure-là, donc je pars à 11h30. Si pour vous, c'est midi parce que c'est comme ça que ça marche au travail, eh bien, midi 14h, ça peut fonctionner aussi. Et si vous n'avez pas le loisir de pouvoir prendre une pause déj aussi longue, eh bien, vous pouvez y aller le soir, tout simplement. Ça permet d'avoir une pause plus courte le midi et d'aller courir en fin de journée. Moi, par contre, le soir, je vous le dis, c'est pas une option. C'est pas que j'ai pas envie, même si on a plus envie le matin. Enfin, moi, j'ai plus envie le matin ou le midi parce que je suis du matin. Mais le soir, ce n'est plus une option depuis quelques années. Tout simplement parce que je pense que c'est la preuve que l'entrepreneuriat te prend toute ton énergie. Et à chaque fois que je veux faire une séance de fractionné, je parle évidemment des séances qui sont soit longues, soit intenses, et bien le soir, je n'en suis absolument plus capable. Je vais repasser à travers ma séance de la semaine dernière parce que mardi dernier, ma journée a été chargée. À 11h, j'avais encore des trucs à faire et je me suis dit « Bon, aujourd'hui, je vais privilégier de finir ça parce que j'ai envie d'être sûr de faire ces trucs-là. » Et au final, j'ai été courir à 18h15. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à l'échauffement, je me disais que c'était pas la méga forme, mais fin de journée, normal, quoi. Et pendant la séance, j'ai attaqué le premier intervalle. J'avais 20 secondes à VMA++. Bon, bah ça, 20 secondes, ça passe. Et après, j'étais censé me retrouver à mon allure 10 km à 3,20 sur cet intervalle. Et je me suis direct retrouvé à 3,25. Et j'ai senti que ça commençait à dériver. 3,26, 3,27. Donc déjà, je n'étais pas sur les allures sur le tout début de séance. Donc ça, c'est très mauvais signe en général. Si vous avez fait un bon échauffement, vous ne devez pas être cramé dès le début de la séance. Après, j'avais de l'allure semi et là, je me suis vite retrouvé à 3,40 et donc à plus de 10 secondes de mon allure semi. Donc séance que j'ai directement arrêtée. Quand ça part comme ça, je ne vois pas l'intérêt en fait de finir la séance. On n'est tout de suite pas du tout dans les allures. Et surtout, bah, j'avais totalement l'impression d'être à côté de mes pompes au final. Comme si mon cerveau n'était pas avec moi, que je l'avais laissé à la maison. J'avais l'impression d'avoir 2 secondes de retard dans ma perception des choses par rapport à ce que mon corps faisait. Bref, j'y étais pas. Et bah, du coup, ça, je n'y arrive plus. Je dis je n'y arrive plus parce que je me suis longtemps entraîné en club à 18h, 18h30 quand j'étais salarié. Et ça se passait très bien. Mais aujourd'hui, à part des footings de 30 minutes, le soir, je suis vraiment pas capable de faire quoi que ce soit. Donc bah, je l'ai intégré et je m'adapte. Hein. Je vais finir mes journées potentiellement un peu plus tard en termes de boulot, 6h30, 7h. Mais je me laisse mon temps le midi vers 11h. Je me laisse un 2h pour pouvoir m'entraîner à ce moment-là parce que c'est quand même important pour moi et je veux trouver l'équilibre. Donc, j'espère que vous pouvez l'avoir aussi cet équilibre. Si ce n'est pas le cas, je vous donne quand même quelques astuces que moi j'utilise qui peuvent vous aider ou pas si ça ne fonctionne pas pour vous. Mais moi, la première que j'utilise, eh bien, c'est de mettre mes entraînements dans mon agenda pro. En fait. Donc, personne ne peut me planifier quelque chose entre 11h et 11h30 et 11h et 13h. Je pense que j'ai bloqué ça parce que c'est réservé à mon entraînement. C'est une réunion avec moi-même. Personne ne peut me bloquer un truc à cette heure-là. Il faut vraiment qu'il y ait un truc hyper important pour que je décide que je fasse sauter l'entraînement à cette heure-là. Tout simplement. Donc, le fait de le placer dans l'agenda, ce que ça fait, c'est que bah, ça permet de s'organiser autour aussi. Quand on voit ça dans son agenda pro, on réfléchit à sa journée un peu différemment et ça permet d'être plus flexible là-dessus. Une autre petite astuce que j'ai qui permet de respecter mon planning d'entraînement sur la semaine, c'est de ne pas mettre ma journée easy, ma journée facile le lundi. Parce que quand on fait ça, eh bien, on a utilisé son joker entre guillemets dès le premier jour de la semaine. Alors que là, on fait, je vais faire 1h20 aujourd'hui, donc j'ai un bon footing. Et mon joker, il est plus tard dans la semaine, mercredi, jeudi, avec une journée beaucoup plus facile. Et du coup, de l'avoir plus tard dans la semaine, ça permet parfois d'échanger des jours si on a besoin, si on a une grosse journée, si on est en déplacement, si on sait qu'on va pas pouvoir, eh bien on a cette journée un peu joker, cette journée plus orientée récup. Et si vous vous entraînez 3, 4, 5 fois par semaine, bah, vous avez plusieurs jokers. Donc jouez avec ça, adaptez votre planning. La seule règle qui est importante, c'est de laisser suffisamment de récup entre les sorties longues et les fractionnées. Et entre les fractionnés eux-mêmes. Il faut à minima 48 heures entre deux fractionnés ou entre un fractionné et une sortie longue et à l'inverse. Donc ça, c'est pareil. Si vous mettez vos fractionnés mardi, jeudi, donc admettons que vous avez la sortie longue le dimanche, fractionné mardi, fractionné jeudi, eh bien là aussi, vous avez gagné un joker parce que si le mardi, vous ne pouvez pas, eh bien c'est pas grave, vous faites le fractionné le mercredi. Et vous allez pouvoir décaler l'autre au vendredi et vous aurez toujours vos 48 heures de récup avant la prochaine sortie longue. Donc essayez de jouer un petit peu avec ça si vous en avez besoin pour faire rentrer tous les entraînements dans votre semaine sans pour autant devoir dire non à d'autres choses qui sont potentiellement importantes au niveau pro, au niveau perso. Une de mes astuces, j'en reparle, hein, c'est ce que je vous disais au tout début, me coucher tôt. Donc en fait quand je vous disais que je me réveille à 6h45 tous les jours sans réveil, et tout simplement c'est parce que j'ai une routine de sommeil où je me couche relativement tôt, en tout cas pas trop tard, et même si je sais que personne n'aime cette astuce, et bien se coucher tôt pour moi c'est la clé d'une journée efficace le lendemain au niveau sportif, au niveau pro, au niveau perso, sur tous les aspects. Après, vous pouvez aussi décaler ça. Quand je dis se coucher tôt, c'est ça dépend de son rythme. Quelqu'un qui est pas du matin, qui va plutôt se lever à 8h30, eh bien, il va se le coucher moins tôt que moi aussi, évidemment. C'est à adapter à votre propre rythme. Certains sont du matin, certains sont du soir, c'est comme ça. Et si on peut dans la vie, c'est bien de pouvoir adapter tout ça. Malheureusement, c'est pas possible dans plein de cas, mais j'espère qu'un jour, tout ça pourra évoluer pour que on puisse un peu plus coller à nos besoins fondamentaux, nos besoins physiologiques, et que chacun puisse s'adapter à ça dans sa vie. Je sais, je suis un idéaliste, mais je pense qu'on va y tendre dans le futur, parce que la santé, on commence à comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour la santé. Le sommeil est une priorité, autant pour la santé que pour l'entraînement, et je pense qu'il faut qu'on remette ça au cœur de nos vies. Voilà, j'ai dérivé un petit peu. Et oui, autre astuce, il faut faire des choix. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas avoir des priorités partout, et on ne peut pas être à 100% sur le boulot, et à 100% sur le sport, et à 100% avec sa famille. Il faut équilibrer un peu tout ça en fonction des périodes, des objectifs. Je priorise pas de la même manière si je suis un ou deux mois avant un marathon, ou là au mois de mars où j'ai pas de méga objectif et où je suis beaucoup plus flexible, je fais beaucoup plus de concessions sur l'entraînement si j'en ai besoin. La preuve, mardi je suis allé courir à 18h, je me doutais que ça fonctionnerait pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Et comme je le répète souvent, la course ne doit pas être une priorité pour vous dans beaucoup de cas. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est un loisir et qu'il y a plein de choses qui peuvent être plus importantes dans la vie. Donc, ne vous trompez pas quand vous pensez à votre entraînement. Si vous n'avez pas eu le temps d'en faire un jour, que vous n'avez pas été bon parce que vous étiez fatigué, ne vous flagellez pas, parce que c'est un loisir. Et si ça ne fonctionne pas, il faut réfléchir à ses priorités. Soit vous donnez un peu plus de place à l'entraînement, mais dans la majeure partie des cas c'est plutôt l'inverse, c'est de se dire attends, ça fonctionne pas, je diminue un petit peu mes attentes vis-à-vis de la course à pied pour pouvoir avoir un meilleur équilibre de vie et qu'au global ça fonctionne, parce que la priorité elle est pas forcément là. Mais je vous dirais quand même qu'il y a une priorité sur laquelle j'aimerais que ça soit indéboulonnable, c'est que vous couriez 3 fois par semaine, à minima, toutes les semaines. Ça, je pense que c'est un enjeu de santé à long terme et qu'on ne devrait pas y déroger. Ça devrait être, je fais mon sport 3 fois par semaine, quelle que soit la période, quel que soit ce que j'ai à côté, ça devrait être aussi important que de se brosser les dents. Ça devient ma nouvelle phrase 2024. Le jour où on comprend qu'en fait, l'activité physique, se bouger, c'est aussi important que des gestes comme ça du quotidien qu'on a intégrés depuis toujours, eh bien on aura gagné, je pense, prévenir vaut mieux que guérir, hein, et je pense que la course à pied, le sport en général, est une des meilleures méthodes de prévention des problèmes. Donc vous m'entendrez encore parler de ça cette année. Je pense qu'il faut qu'on véhicule ce message, il faut qu'on soit tous là pour véhiculer ce message et que ça se propage petit à petit. Je vois de plus en plus de personnes courir, j'ai l'impression que la course à pied devient de plus en plus populaire et c'est très cool, mais on a encore du travail à faire parce que il faut que tout le monde fasse du sport à 100%. Voilà. Petite gorgée de café. Et du coup, je regarde mes notes. Oui, prioriser. Eh bien, pour moi, Campus est ma priorité, Running Addict est aussi ma priorité, c'est les deux, en fait, ça va ensemble, le pro. Et donc, j'accepte de louper certaines séances parfois, d'en faire d'autres dans des conditions pas optimales et de me dire, c'est pas grave, c'est pas agréable, hein, je vous le dis. Ma séance de mardi, j'étais vraiment, sur le moment, j'étais pas content, j'étais déçu. Et après, j'ai remis ça dans le contexte de ma journée, je me suis dit, mais t'as fait tout ce que tu voulais faire dans ta journée de travail, t'as été super efficace, ça a bien marché, ça va dans le bon sens, Campus avance exactement comme tu le voudrais, Running Addict aussi, ça se rééquilibre, et on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Donc l'entraînement s'est mal passé, c'est comme ça, on va essayer d'avoir le meilleur équilibre le plus souvent possible, mais il y aura forcément des moments où cet équilibre il va être rompu et où on va pas le trouver. c'est le principe. En fait, trouver un équilibre, c'est très compliqué. Et voilà, il faut accepter ça et continuer d'avancer, faire sa sortie, faire son volume. Et au global, on va retomber sur ses pattes. C'est ça qu'il faut retenir. Du coup, je le disais, 10 entraînements par semaine ou 8 pour moi en ce moment. Dans tous les cas, c'est loin de votre réalité. Et 3 à 6 fois par semaine, c'est très bien. Je veux revenir là-dessus parce que je trouve que récemment, dans les dernières années, on parle peut-être un peu trop de volume d'entraînement comme un facteur primordial. Alors qu'en fait, pour moi, le volume d'entraînement, c'est un facteur qui est primordial quand on a maximisé son profil. Comme moi, par exemple, pour atteindre le 2h30 au marathon, j'ai aucune chance de le faire si je cours 60 ou 80 km par semaine. Ça fait 20 ans que je cours, ça fait 20 ans que j'optimise les choses, et ce 2h30, bah, si je veux aller le chercher, faut que j'en fasse plus. Mais c'est pas le cas pour la majeure partie d'entre vous. Vous avez une chance, c'est que vous ne courez pas depuis aussi longtemps, vous n'avez pas encore maximisé votre potentiel, et du coup, courir beaucoup, courir plus, c'est une reco qu'on entend de certains coachs, je ne pense pas que ça soit adapté à la grande majorité des gens, je dirais à 95% des gens, on peut se retrouver avec du 3 à 6 entraînements par semaine, comme on le propose sur campus, et avoir une belle progression sans avoir besoin d'aller chercher de courir plus. Et je peux vous en donner des milliers d'exemples. On en a toutes les semaines sur le campus. Donc avant, c'était une croyance, une pensée. Aujourd'hui, ce sont des faits. On a des milliers de coureurs qui progressent beaucoup avec ce 3 à 6 entraînements par semaine. Évidemment, 3, c'est le minimum syndical pour commencer à avoir une belle progression. Mais au début, ça marche. Et puis entre 4 et 5 entraînements par semaine, vous êtes dans le sweet spot, je dirais, ce qui va être le plus rentable en termes d'entraînement. 4 entraînements par semaine, c'est très rentable. 5 aussi. Après, au-delà, oui, on va progresser plus, mais on va diminuer petit à petit l'effet d'un entraînement, enfin le gain qu'un entraînement va apporter. Alors que 4 à 5, quand on est dans cette zone-là, honnêtement, c'est là où on voit les meilleurs résultats avec le moins d'investissement, entre guillemets. Donc moi, je vous dirais, plus d'entraînement, c'est une carte qu'il faut garder dans votre manche pour si un jour, vous avez maximisé votre potentiel à 4 ou 5 et que vous vous dites, ok, je veux faire plus, j'ai envie d'atteindre plus, et bien là, vous pourrez mettre un entraînement de plus, ça sera le moment. Mais tant que vous progressez, restez avec ça parce que de toute manière, ce qu'on fait sur campus, en fait, c'est on va compenser le volume. En fait, le volume que vous pourriez faire, ça va amener de la progression. Il y a un autre facteur qui peut amener de la progression, c'est l'intensité. Et quand on fait le bon mix, qu'on cumule la bonne intensité avec un volume correct, eh bien, en fait, on va avoir des bons résultats. Donc, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut mettre la bonne quantité d'intensité pour la personne qu'on a en face de nous, pour ne pas la blesser et en même temps lui permettre d'avoir des beaux progrès. Mais ça, c'est notre travail sur campus. Et je pense que là, on a atteint un bel équilibre où en fait, on arrive à trouver la bonne dose d'intensité et de volume pour chaque profil pour vous permettre d'optimiser votre potentiel. Donc là, on parle vraiment d'optimisation, du meilleur rapport coût-bénéfice en fait. Combien l'entraînement vous coûte en termes de temps et combien il vous rapporte, bah, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est ça. C'est de maximiser le bénéfice que vous allez avoir dans l'entraînement avec le moins d'investissement possible, entre guillemets, parce qu'on sait que vous avez plein d'autres choses dans votre vie et que vous ne pouvez pas forcément faire plus. J'ai dérivé un petit peu. C'était pas le sujet campus à la base, mais je pense que c'était intéressant de vous expliquer un petit peu la logique qu'il y a derrière. Et qu'on vise vraiment d'optimiser cette partie. Ceux qui voudraient en faire plus, d'avoir un petit peu plus de volume, peuvent rajouter un footing. Hein. C'est toujours une option qu'on peut faire. De toute manière, comment on augmente le volume d'entraînement, c'est pas en rajoutant l'intensité, c'est toujours en rajoutant des petits footings lents par-ci par-là au fur et à mesure. Donc, vous avez la méthode si vous voulez faire plus de volume sur campus. C'est pas compliqué, c'est en rajoutant du footing. Mais je ne vous le recommande pas forcément, à part si vous avez maximisé votre potentiel avec l'entraînement qu'on vous propose aujourd'hui. Parlons un petit peu muscu. Et mon objectif de muscu que je vous avais évoqué en début d'année, donc de faire un SBD, squat, bench, donc bench égale développé couché, et deadlift, le soulevé de terre. C'est trois exercices différents, mais que je trouve très intéressants à maîtriser. Et je m'étais mis l'objectif en allant voir Nassim. J'ai tourné une vidéo que je ne vous ai pas publiée parce que j'ai décidé que vous verrez l'ensemble de cette quête avec le début, le milieu, la fin en une seule vidéo qu'on publiera sûrement au mois de juin quand j'aurai terminé tout ça. Eh bien, c'est difficile. Je trouve ça difficile parce que je me suis mis un objectif en muscu. Mais je n'ai pas envie de gâcher, entre guillemets, mes objectifs en course à pied. Et comme souvent, eh bien, si on a trop d'objectifs à la fois, eh bien, on est moyen dans tous. Et bah là, je suis à la croisée des chemins et je suis en train de me dire quel choix je fais. Parce que le stress, c'est du stress. On ne peut pas tout cumuler et sinon, on ne va pas avoir de résultats. Donc, j'ai décidé de garder la course évidemment en numéro 1 parce que c'est indispensable. Pour moi, le 2h30 au marathon, il reste au-dessus de ce projet muscu. Et donc, j'ai redescendu un peu un cran dans mes espérances sur cette partie. Et notamment, en fait, dans mes séances, je suis hyper focus en particulier sur les exercices purement course à pied et notamment mes deux exercices favoris. Très drôle d'ailleurs ces deux exercices favoris car ce sont les mêmes que Emric, aka Mtonkiné, avec qui j'ai tourné une vidéo la semaine dernière, que vous allez avoir bientôt d'ailleurs, il m'a donné les mêmes. Donc très bien, on est aligné là-dessus. Et le premier, c'est les fentes bulgares. Vous savez, cette fente où vous avez le pied posé en arrière sur votre canapé ou sur quoi que ce soit pour le surélever, et vous allez faire un... Comme un squat, au final, c'est une fente. Vous allez travailler très très fort sur votre chaîne postérieure, vos fessiers, vos quadris aussi. Tout ça sur une jambe, en instabilité. Bref, très 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 spécifique à ce que vous allez faire en course à pied puisqu'on passe notre temps sur une jambe. Moi, j'en suis rendu avec deux haltères de 14 kg. Ça progresse gentiment. J'avais démarré cet exercice avec des haltères de 8 kg, je crois. Donc 8 x 2, 16. Je suis passé à 2 x 10, 2 x 12. Et là, on est à 2 x 14. Donc, je suis bien content de voir que cet exercice progresse parce que je le sens aussi. Je pense que c'est celui qui est le plus bénéfique pour moi en ce moment en termes de solidité musculaire quand je cours. Je sens la différence. Et le deuxième exercice évidemment incontournable des coureurs, l'extension de mollet. Le mollet est un des muscles, voire le muscle le plus utilisé en course à pied pour plein de raisons, mais il est fondamental et notamment pour prévenir les blessures. Parce que tout ce qui se passe en dessous du genou, eh bien, il y a de grandes chances que le mollet ait un rôle dans les blessures que vous pouvez avoir. Parce que plus le mollet va être solide, plus il va être fort, plus il va encaisser les chocs pour le reste des structures. Donc, fascite plantaire, les extensions de mollet travaillent aussi le pied, les muscles du pied. Donc, c'est double travail. Mais plus vous allez avoir un mollet solide, plus c'est lui qui va prendre toute la charge au moment de l'impact et l'encaisser. Donc, j'en fais beaucoup toutes les semaines depuis plusieurs années. Et ça me permet de gérer cette fascite plantaire qui ne m'a plus posé de problème depuis un petit paquet de temps, même si elle est jamais bien loin. Donc ça, c'est un truc à se dire aussi avec le renfo. On peut se dire tout va bien. Si on arrête 2-3 semaines, on va vite se rendre compte à quel point c'était utile parce qu'on va vite retrouver ses anciens problèmes. Donc une fois qu'on a commencé ce genre de routine, il ne faut plus jamais arrêter. Et du coup, en termes de perf, grosso modo, je vous donne quand même un petit insight. Le deadlift, j'avais démarré avec du 60 kg en décembre pour essayer de maîtriser la technique. Là, je suis capable de soulever un petit 90 kg, donc 1,5 fois mon poids de corps. J'aimerais bien approcher, voire dépasser les 100 kg rapidement parce que je trouve ça fun de se dire qu'on est capable de soulever 100 kg. Oui, ce projet, c'est aussi du fun, mais j'essaye surtout de garder une bonne technique. Et je trouve ça intéressant parce que ça travaille fortement mes muscles lombaires avec mes grandes jambes. Je sens en fait que de ce côté-là, ça se renforce aussi au fur et à mesure. Et je vais peut-être en bénéficier sur, euh, je pense en bénéficier sur la course à pied aussi parce que mon dos est fragile. Et là, j'y vais en douceur. Je progresse doucement sur cet exercice qui est très sollicitant pour le dos, mais qui peut aussi lui permettre de progresser. Voilà, donc c'est à ça que... En fait, la muscu, moi, ça me sert à la fois à progresser en course à pied et aussi à m'amuser parce que oui, je m'amuse beaucoup maintenant sur tout ça. Et j'espère vous réussir à vous amener à avoir envie d'aller à la salle ou de faire des exos chez vous, hein, parce que fente bulgare, extension de mollet, ce sont deux exercices qu'on peut faire à la maison sans aucun problème. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à la salle pour faire les deux exercices les plus importants, selon moi, pour un coureur. Voilà, tout est dit là-dessus. On en reparlera dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et si on revient au sujet de base, organisation, travail versus sport, entrepreneuriat et comment je fais pour gérer tout ça au final, eh bien on va parler du fait que je travaille en courant. Comment ça, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que l'entrepreneuriat, ça ne s'arrête jamais. C'est pas comme quand j'étais salarié ou quand je fermais mon ordi, basta, après c'était terminé. Je commençais tôt, je faisais des grosses journées, j'étais ingénieur donc je faisais des trucs qui prenaient un peu la tête. Mais une fois que c'était fini, c'était totalement fini. Là, que ça soit le soir, le week-end, au moment où je ferme mon ordi pour aller courir, il n'y a pas de pause. En fait, c'est comme une entreprise, c'est comme un enfant. On l'a constamment en tête. On a constamment des idées, des notes à prendre, des choses qu'on veut dire aux gens avec qui on travaille. En fait, on est dedans à 1000% tout le temps et il n'y a pas de coupure. Et quand on vous parle de frontières vie pro, vie perso, peut-être que c'est valable dans le salariat, mais j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est très difficile de mettre une frontière, surtout quand vous vivez avec une de vos associées. Donc, c'est encore plus compliqué. Et je me plains pas parce que c'est très cool. J'adore cette vie, j'adore tout ce qu'on fait. Mais dans les faits, forcément, ça rend difficile un petit peu le fait de se reposer mentalement. Et c'est comme quand je disais que le soir, aller courir, j'y arrivais pas. Et bien là, au final, même si j'y vais le matin ou le midi, j'ai l'impression de travailler en courant. Ce qui est un avantage. Et un inconvénient. Un avantage parce que c'est souvent en courant que je vais récupérer mes meilleures idées. Donc, même si j'écoute rien, si je suis juste avec moi-même, mon cerveau va faire des associations d'idées et je vais revenir avec 2-3 sujets que je vais avoir envie de creuser. Donc, très cool parce que ça me fait avancer dans le boulot et en même temps, pas très cool parce que ça ne m'a pas reposé spécialement. Petite entorse à ça, le trail. Les sorties trail ou route avec dénivelé comme je fais en ce moment, ça je trouve que ça me permet de ne penser à rien d'autre car mon cerveau il est occupé à savoir ce qu'il doit faire, où il va mettre le pied, à gérer son intensité qui est différente toutes les secondes en fonction du dénivelé qu'on a et je pense que c'est une des raisons qui va faire que dans les prochaines années je vais faire plus de trail parce que ça me permet vraiment de couper. Et la course sur route, le fractionné le permet, parce qu'évidemment, quand on est en fractionné, on n'a pas le temps de penser à autre chose, mais en footing, sur le plat, on va dire qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est mécanique, c'est robotique, et du coup, on a le temps de penser à plein de trucs. Alors qu'en trail, je trouve que c'est différent sur cet aspect-là, et ça m'intéresse beaucoup. Par contre, ne m'attendez pas sur des trails de montagne, je suis en train de me rendre compte en faisant mes petites séances de dénivelé au Havre que ce qui m'intéresse le plus, c'est quand je peux courir. Donc au final, je vais voir ce que ça donne à la Maxi Race à Annecy cette année, mais les descentes techniques, je pourrais m'y améliorer, mais en soi, j'ai l'impression que ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que moi, ce qui m'intéresse, c'est de courir, d'aller vite dans les descentes, de gérer les montées. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est du trail roulant, moyennement technique. Je pense que je m'épanouirais beaucoup plus là-dessus. Donc, je sais que les purs trailers diraient « Ah ouais, mais ça, c'est de la merde. » Mais comme d'habitude, ne jugez pas les autres. Je pense que chacun doit trouver midi à sa porte, entre guillemets, et qu'il faut qu'on aille trouver notre plaisir dans ce qui nous fait vraiment plaisir, justement, et aller vers ça, et pas faire des trucs juste parce que tout le monde dit qu'il faut faire ça. Donc, je sais pas si ça existe d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si des trails vraiment roulants qui permettent de bien courir tout le long, mais qui ont quand même du dénivelé, hein. Je veux pas des trucs tout plats non plus. Je sais pas si ce profil de trail existe. En tout cas, ça m'intéresse d'en trouver s'il y en a. Voilà, j'ai totalement divagué. C'était pas le but de cette partie, mais voilà, je pense que ça intéressera quand même certains. Je suis sûr que je suis pas le seul à me dire ça, et voilà, on y reviendra. En attendant, petit sujet très rapide. Encore une fois, suis-je heureux? Je pense que vous êtes rendu compte dans ce que j'ai pu dire jusque-là que malgré l'intensité de ma vie et de tout ce qu'il y a dedans et de la difficulté que je vous annonçais juste avant de couper, de réussir à couper, eh bien, j'ai pas l'impression d'être malheureux. Et vous allez voir que ne pas avoir l'impression d'être malheureux, c'est la base pour savoir si on est heureux. Je reprends une phrase qui vient d'un livre que j'ai écouté dans un podcast. Je crois que c'est le podcast de Théo Lion, mais je ne suis pas sûr. Qui dit, et en plus, peut-être que je me trompe sur la phrase, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est vous partager les idées. Désolé si les citations sont pas bonnes, c'est le concept qu'on garde. Et cette phrase, elle dit. Tu sais quand tu es malheureux. Non, je recommence. C'est pas ça. Il manque une virgule dans ma phrase. Tu sais quand tu es malheureux. Donc, si tu n'es pas malheureux, c'est que tu es heureux. Donc, oui, la vie est dure, elle est très occupée, je suis souvent cramé, mais au global, je kiffe ce que je fais et je kiffe surtout pourquoi je le fais. Quand je vois vos commentaires, que je vous vois en vrai, que je vois vos résultats, eh bien, je sais pourquoi je passe des heures tous les jours à essayer de développer Campus, à construire une équipe, à faire tout ce qu'il y a autour qui est compliqué, mais je sais pourquoi je le fais. Et de toute manière, même sans ça, même sans se dire est-ce que je suis heureux avec ça, eh bien, est-ce que je suis malheureux à faire toutes ces tâches et à être au taquet tous les jours? Bah non, clairement pas. Je suis clairement pas malheureux là-dedans. Donc, bah, si je suis pas malheureux, c'est que je suis heureux. Point. Et j'aime cette définition qui est un peu binaire. Soit t'es malheureux, soit t'es heureux. Parce qu'en fait, le bonheur, souvent, on essaye de le définir. Et en fait, c'est une quête où, bah, il y a toujours un truc qu'on peut avoir en plus, qu'on peut améliorer. Il y a toujours un truc qui va pas dans la vie en général. Donc, en fait, on va pouvoir se dire, bah oui, mais je suis pas heureux parce que ça. Et je trouve que c'est voir le verre à moitié vide, alors qu'en fait, si on voit le verre à moitié plein et de se dire au global ça va, je suis heureux, point, et eh bien en fait, on va beaucoup mieux. Il faut aussi satisfaire des petites choses simples de la vie. Ma petite sortie de trail hier, j'ai trouvé très cool, elle m'a fait du bien, elle m'a fait plaisir, et eh bien ça suffit. Hier, on était, allez, je vous partage du perso, on a eu un beau petit coucher de soleil sur la plage du Havre, les marées sont très basses en ce moment, on a pu aller se promener quasiment à l'entrée du port, eh bien j'avais jamais fait ça. C'était très cool et ça me suffit. J'ai pas besoin de plus, donc il faut se satisfaire de petites choses et ça rend plus facilement heureux aussi. Voilà pour la partie philosophique. Maintenant, je reviens à de la course et à l'entraînement en groupe parce que cette semaine j'ai été courir. J'ai eu des séances différentes de d'habitude cette semaine. J'ai eu celle qui s'est pas bien passée et j'ai eu celle où j'ai été courir avec Dorian à Caen. Lui, il est en pleine prépa marathon, à un mois de son marathon, il avait un 15 fois 1000 ultra dur, une séance qu'on en rigolait avant, mais qui semblait vraiment très compliquée. Au final, eh ben, j'y suis allé pour lui apporter ce petit boost, cette petite motivation et l'accompagnement qui peut aider à finir les séances les plus dures. Voilà, et du coup, bah, c'est ça l'effet positif de l'entraînement en groupe. Je m'en suis rendu compte, j'en fais pas souvent en ce moment parce que bah justement avec mes horaires, et bah à 11h, 11h30, il n'y a pas grand monde pour aller courir avec moi. On peut pas tout avoir dans la vie, c'est pas très grave. Mais une petite séance comme ça de temps en temps, et bah je trouve que ça fait vraiment du bien parce que ça rend la séance plus facile. On est occupé, on est distrait par le fait qu'on n'est pas seul. On n'est pas 100% concentré sur son effort parce qu'on partage la difficulté. On en discute avant, pendant. Ce qui motive et ouais, ce qui nous automotive les uns les autres. et ça permet de fortement minimiser les envies d'abandon ou de ralentir. Bref, ces petites pensées noires que notre cerveau nous amène facilement quand on est tout seul et qu'on n'a rien d'autre à penser que sa séance. Donc au global, je trouve qu'on fait ça avec moins de difficultés. Par contre, il faut faire attention de s'entraîner à son niveau. Parce que là, Dorian, il nous faisait un petit 15x1000 à 3,05. Je n'ai aucunement le niveau pour faire cette séance. Donc, bah, j'ai adapté la mienne. J'ai fait un 15x400 à 3,05. Donc, avec Tristan, quand je lui ai dit que j'allais pouvoir courir avec Dorian, on a essayé de trouver une séance qui allait fonctionner pour moi. Donc, 15x400 mètres à 3,05. Donc, en dessous de la VMA. Pas très très loin, mais quand même en dessous. 15 x 400, récup 1 minute, ça fait une belle séance pour moi, surtout que j'ai fait peu de vitesse ces derniers temps, ces dernières années même on pourrait dire. Donc le 3,05, c'est pas une allure qui est simple à tenir pour moi. Et pourtant, bah, dans ce contexte-là, le 15 x 400, il est très bien passé. J'ai même pincé certaines récups, ça c'est le risque encore une fois d'être en groupe, c'est que bah, pour réussir à accrocher des morceaux de 1000 avec Dorian et le tirer, eh bien, y a des moments où j'ai fait des mauvais calculs et je me suis retrouvé à devoir partir après 40 secondes au lieu d'une minute. Bon, bah, forcément, on met un petit peu en péril sa séance si on n'a pas la forme pour. Moi, j'avais l'impression que ça allait, donc je me suis dit, bon, allez, on y va. Plutôt que de louper le train, je monte dedans après 40 secondes de récup. C'est arrivé 3-4 fois pendant la séance et ça ne m'a pas empêché de terminer. Donc au final, c'est plutôt un bon point, mais c'est aussi un risque parce que si on fait ça et qu'on se retrouve à exploser en cours de séance, eh bien, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Donc l'effet de groupe, c'est très positif pour la performance, mais ça peut aussi être négatif si on ne respecte pas son plan et qu'on s'entraîne avec quelqu'un qui est plus rapide que soi ou qu'on est dans une mauvaise journée et qu'on veut absolument s'accrocher aux autres. Des fois, ça peut être délétère, donc il y a du positif, il y a du négatif, c'est toujours le cas de toute façon, il n'y a rien qui a uniquement du positif. Donc j'espère en faire quand même un peu plus souvent, une fois de temps en temps, des séances comme ça, parce que ça m'a fait plaisir. Et pour finir, retour sur cette petite prépa trail, parce que je dis prépa trail, même si je suis en cours de prépa route, c'est un mix, mais je fais la Maxi Race qui est donc le dernier week-end de mai ou le 1er de juin, là. Enfin bref, il est à cheval je pense entre les deux, donc c'est dans pas si longtemps, là on est le 11 mars à l'heure où j'enregistre, donc ça nous laisse mars, avril, mai, à peine 3 mois. Bon, c'est exactement ce que j'ai fait l'an passé pour préparer le marathon du Mont Blanc, donc pas de surprise, je sais que je peux arriver en forme, j'ai aucun doute là-dessus parce que l'année dernière je suis arrivé vraiment en bonne forme au marathon du Mont Blanc. Et je sais quoi travailler aussi parce que j'ai l'expérience maintenant de la prépa de l'année dernière et je sais que on m'avait dit attention, tu vas galérer musculairement dans les descentes et c'est plutôt techniquement que j'ai galéré. Si j'avais pas eu de problème technique, je pense que musculairement ça aurait tenu. Je sens que c'est pour ça que j'ai aussi envie un petit peu d'explorer plus le trail, c'est que mes jambes aiment la variété de dénivelé. Autant sur un marathon, sur le final, eh bien, je suis dans le dur musculairement parce que le geste est identique pendant 42 km. Donc ça, j'ai du mal. Par contre, le fait de monter, descendre, d'avoir des grandes variétés en termes de technique de foulée, eh bien, ça permet de se reposer et de récupérer sur certains muscles pendant que d'autres travaillent. Et ça, j'ai l'impression que je peux être très très solide à ça. Donc j'aime ce côté différent, complémentaire que la prépa trail peut avoir sur la prépa route. Et comme d'habitude, le but c'est aussi d'avoir du fun dans tout ça. Quand vous choisissez un objectif, regardez pas uniquement le côté performance, qu'est-ce que je peux faire. Si vous avez envie d'aller faire autre chose, de faire du trail qui soit court, qui soit long, eh bien, si vous avez la capacité de vous entraîner pour et que vous avez la motivation, eh bien, allez-y. Faites-vous plaisir et de toute manière, tout ça, on en reparlera dans les prochains épisodes puisque, évidemment, je vais aller travailler un peu plus le trail. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que votre footing, votre sortie longue ou de votre fractionné, si vous m'écoutez en fractionné, c'est bien passé et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce 10 km en espérant un petit RP de mon côté. Ciao les amis, bonne semaine.